Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Prune 92 FM dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Il est 18h et nous nous retrouvons pour une heure de programme sur l'actu de Nantes et ses environs. Et sans plus tarder, place à nos invités du jour. En première partie, nous sommes avec Béatrice Morisset, médecin qui est à l'origine de l'association COPMA, qui plaide pour la prise en charge des proches de personnes alcooliques. Elle est au micro de Perrine. Salut Perrine.
Salut.
Ensuite, on parle d'amour et de bande dessinée à l'occasion du festival Fumetti qui s'empare de la thématique amoureuse. Pour en parler, Cassandre Thiénot de la maison Fumetti et Loïc Sécheresse, auteur et illustrateur de bande dessinée, seront là pour répondre aux questions de Chloé. Salut Chloé.
Salut.
Et on est aussi avec Morgane. Salut Morgane.
Salut.
Et ce soir, tu fais ton palmarès des meilleurs films de 2023, mais aussi des pires films. Alors, on a hâte d'écouter ça. On pourra entendre aussi le palmarès de l'équipe. Alors, qui remportera la palme de Prune? Vous en saurez plus dans quelques instants. Elena n'est pas présente ce soir, mais on la salue. Ce sera Suvan qui est avec nous pour cette der des der. Et bah, Suvan n'est pas encore dans le studio, mais il va arriver dans quelques instants. Et à la réelle, ce n'est pas Seb non plus qu'on salue, mais c'est Clotilde. Salut Clotilde.
Salut.
Et tout de suite, sans plus tarder, on passe à l'entretien avec Perrine et Béatrice Morisset de l'association COPMA.
Curiosité. L'entretien.
L'alcoolisme est une addiction, nous le savons toutes et tous. L'alcool nuit gravement à la santé, c'est un slogan que nous connaissons bien aussi. Mais au-delà de la personne alcoolique, ce sont également les proches qui souffrent. Et de ces personnes-là, qui s'en soucient, qui s'en occupent? Pourquoi l'alcoolisme, véritable maladie dévastatrice, est-il souvent banalisé, plus souvent banalisé que pris au sérieux? Serait-ce une des raisons pour lesquelles la souffrance des proches est ignorée, passée sous silence? Pour nous parler de ce sujet délicat ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Morisset. Bonsoir et bienvenue dans les studios de Prune.
Bonsoir et merci de m'avoir invitée et d'avoir invité aussi COPMA par cet intermédiaire.
Béatrice Morisset, vous êtes présidente de l'association COPMA, collectif des proches de malades alcooliques, dont la priorité est la prise en compte des proches. Pour mieux comprendre COPMA, pouvez-vous nous dire ce qui vous a en premier lieu amené à sa création il y a 5 ans, je crois?
Tout à fait. Ça a débuté dans le cadre d'un collectif qui s'est transformé ensuite en association. Moi, je n'avais aucune histoire particulière avec l'alcool. Et puis un jour, ça m'a concernée dans ma famille. Et j'ai vu l'ampleur des dégâts que ça provoquait. Et en même temps, je suis médecin généraliste. Et lors de mon activité professionnelle, j'avais toujours un seul et même regard vers le malade et jamais, jamais vers le proche, l'entourage. Parce que, premièrement, je ne savais pas qu'ils étaient en souffrance, que nous n'avions aucune formation professionnelle sur le thème. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à eux. Et là, aux surprises, ils m'ont tous répondu « Mais pourquoi, madame? Pourquoi vous me posez ces questions-là ? » Les questions précises qui concernent, voilà.
Alors justement, c'est cette double casquette, à la fois vous avez été touchée personnellement et le fait d'être médecin qui vous ont poussé à agir et qui, c'est les choses qui vous ont mis à la puce à l'oreille.
Tout à fait. Et moi, à cette période-là, j'ai été particulièrement mal, puisque ça déstabilise complètement, ça déstabilise une famille entière, et personnellement, en tant qu'individu. Et je me suis intégrée à un groupe de parole, et là j'ai découvert combien de personnes étaient en souffrance. Effectivement, moi, dans ma vie perso, ça va mieux, mais je suis retraitée. Mais personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de souffrance. Je sais que ça n'est pas dit, ça n'est pas pris en charge. Que ce sont des gens qui vivent dans la honte, qui vivent dans la culpabilité, qui ne s'expriment auprès de personne. Et il faut qu'ils soient entendus. L'entourage doit être entendu.
Alors voilà. Justement, quand vous parlez d'entourage, on parle des proches dans ce collectif. De qui parle-t-on concrètement? Les proches, c'est qui?
Alors, les proches, c'est... alors, on vous dira plutôt la conjointe, parce que jusqu'à présent, on parle plutôt du malade alcoolique, mais en même temps, la situation s'inverse, puisque actuellement, on observe que beaucoup de femmes peuvent consommer en excès et déstabiliser la famille. Hein.
Donc, il y a le conjoint ou la conjointe, ça, c'est un premier type.
Les enfants. On a des enfants jeunes qui ont du mal à se structurer devant la carence, face à la carence d'un des parents qui ne peut pas assumer soit l'éducation, soit même la vie du foyer, parce que le malade alcoolique peut être rapidement en arrêt de travail, en dépression, en perte d'emploi.
Donc quand vous dites la famille, ça peut être les parents, les frères et sœurs.
Ah, mais ce sont aussi les frères et sœurs, parce que un malade alcoolique, lorsqu'il a dans une famille, il fait l'ombre aux autres et il prend l'attention de tout le monde. Et puis les parents se posent aussi des questions. Pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait?
Alors j'ai lu sur votre site justement que pour un malade alcoolique, il y a 5 à 7 personnes qui souffrent en silence.
Tout à fait.
Quelle différence vous faites entre ces différents types de proches qu'on vient d'évoquer, donc le conjoint ou la conjointe, les enfants, la famille, les parents, les frères et sœurs? Qu'est-ce qu'ils vivent et avec quelles conséquences?
Ah, qu'est-ce qu'ils vivent? Mais ils vivent la honte. Ils vivent la honte que ça les touche. Pourquoi chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils boivent? Ils ne savent pas que c'est une maladie. Un malade alcoolique, il va vous dire je bois pas à cause de toi, parce que tu me fais suer, parce que j'en ai marre, parce que tu n'es pas aimable, parce que tu n'es pas épilé, parce que je ne sais pas quoi. C'est tous les prétextes.
La fameuse culpabilité dont vous parliez.
Voilà, la culpabilité. Donc la honte, et on apprend à mentir. On ne va pas dire aux autres amis et à la famille que son proche boit. On ne va pas le dire. Enfin, je veux dire, on est tellement dedans qu'on s'épuise à faire tenir la famille à volo avant qu'elle ne parte. Parce que dans les groupes de parents auxquels je participe, je vois beaucoup de jeunes femmes, la quarantaine, 2-3 moumes, 2-3 gamins, 2-3 enfants, pré-ados, ados. Il faut la faire vivre, la famille. Quand vous consommez une bouteille de gin par jour, plus un paquet de cigarettes par jour, le budget du foyer, il bascule complètement. Comment se protéger? Donc, je parle des conjointes, j'ai tort, parce que la tendance s'inverse. Mais en même temps, ces femmes sont dans un épuisement total. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vit aussi? On parle aussi d'inceste et de féminicide. Hein. Là, on pourra peut-être en reparler. Mais pour terminer sur le sujet, moi, si par hasard des personnes ou des jeunes nous écoutent là, je veux leur dire qu'il ne faut pas rester avec ce secret et cette honte. Il faut aller s'adresser à un professionnel.
Même parce que ce sont des violences psychologiques qu'ils subissent, qu'ils et elles subissent.
Ah, mais tout à fait. Mais ce sont des violences banales, des insultes banales, mais quotidiennes, liées à une surconsommation. Il s'agit d'une maladie, elle doit être prise en charge et soignée. Mais comment vous dire? Je perds le fil.
Non, je vous en prie, mais pour vous rejoindre, j'ai lu aussi que les conjointes ou les conjoints maintenant, qui sont considérés comme les piliers en fait, de la personne alcoolique, 4 sur 6 sont sous antidépresseurs. Et les 2 sur 6 sont quand même allés voir des psys.
Tout à fait. Mais il n'y a pas d'autre moyen de tenir. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la perdition. Vous savez, et puis en plus, il y a des choses dont on a parlé, entre autres dans l'article qui est passé, et c'est une jeune femme qui le disait, on se marie sous le régime de la communauté qui est un régime national.
La communauté de bien.
La communauté de bien. On veut divorcer, ou on veut se mettre en séparation, en modifier son statut financièrement, c'est un gouffre. Puisque les jeunes couples ont du mal à terminer le mois, mais changer de statut matrimonial... Ce sont des points sur lesquels il faut réfléchir.
Donc la conjointe subit des violences psychologiques et en même temps financières. Elle doit assurer financièrement tout le rôle du foyer.
Ah ben complètement. Mais c'est une évidence, ça. Mais personne n'en parle. Vous savez, je pense qu'il y a eu des mouvements de grève. On a eu des mouvements de grève dans les années précédentes. Hein. Qui était en tête de ligne au tout début des mouvements? C'était des femmes. Des familles monoparentales, avec des femmes en situation de précarisation. Très fragile. Et des choses qu'elles ne diront pas. Un conjoint, un enfant n'ira jamais dire à son médecin, vous savez, mon père, ma mère boit. Il le garde là, au fond de lui. Et c'est très douloureux. Et entre autres, pour un enfant ou un ado, il est difficile de se construire sans repère ou sans remère. Hein, c'est-à-dire, voilà, repère ou remère.
Repère, remère. Avant de parler des objectifs de COPMA, les objectifs concrets de votre association, établissons un constat en trois points. 1. 120 milliards d'euros, c'est le coût social annuel de l'alcool en France.
Tout à fait.
2. L'alcool et la dépendance aux produits stupéfiants est le troisième facteur de risque identifié lors de violences faites aux femmes.
Tout à fait.
Et 3. 86% des auteurs et autrices de violences étaient sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants. C'est quoi le coût social ?
C'est énorme. Mais c'est énorme. Vous imaginez, 120 milliards. Et on parle
ça comprend
de...
quoi ?
Ah, alors ça, c'est une enveloppe. Vous le direz, c'est pas bien bien précis, on va pas vous donner le nombre d'arrêts de travail, mais là-dedans vous avez des impacts indirects. Indirect, ça n'est pas que l'hospitalisation du malade, hein, c'est les conséquences sur des hospitalisations. Le rapport n'est pas bien détaillé, mais on a la même chose en alcool et la même chose en tabac. Ce sont des gouffres financiers et sociétaux, il est temps de bouger.
Alors, pourquoi alcool et produits stupéfiants sont-ils toujours associés dans ces termes ? L'un est en vente libre, l'autre est interdit.
On bascule sur du politique, là. Parce que c'est vous qui le dites, hein. Effectivement. Mais si on sait aussi qu'1% de la population malade, 1% de la population consomme 10% des productions d'alcool. Hein, donc ça concerne une petite minorité, mais cette minorité qui paye sa TVA est impactée dans sa famille sur les conséquences. Quand on dit que 7 à 9 millions de personnes payent les conséquences d'un alcoolisme chronique qui fait aussi vivre l'État, enfin, je ne veux pas parler de TVA, je ne veux pas parler d'argent, je ne veux pas parler de politique, mais en même temps c'est ça, on a besoin d'aide.
Là c'est vous qui l'avez dit.
J'accepte. Donc moi je voudrais juste dire aux jeunes qui vont nous entendre, vous n'êtes pas responsable de l'alcoolisme de votre proche. Vous n'êtes pas coupable, il s'agit d'une maladie et prenez soin de vous. Alors nous avons un site qui est, vous le direz mieux que moi dans les détails, c'est copma.fr, www.
Oui, c'est très bien dit comme ça.
C'est très bien dit comme ça, très bien. Et allez sur l'onglet Trouver de l'aide et vous trouverez de l'aide. Parce que COPMA a cette fonction-là, faire connaître et reconnaître. C'est-à-dire qu'on veut qu'on parle de nous, pas parce qu'on en a besoin. Moi j'aimerais être ailleurs, aujourd'hui j'ai pas... Voilà. Donc, il faut que ça remonte. Et si un décideur écoute l'émission, qu'il l'entende jusqu'au bout, qu'il l'écoute jusqu'au bout.
Alors, pour revenir sur les trois points que je viens d'évoquer, lors du Grenelle sur les violences conjugales de 2019, pourquoi aucune place n'a été donnée à l'alcool ni aux substances psychotropes comme facteur déclenchant ?
Il y a une très belle revue de presse hein, sur le 2019, sur le Grenelle. Hein. L'alcool, le grand absent. Parce que les femmes ont vu les choses... moi, j'ai vécu 68 aussi, hein, je suis un petit peu plus âgée que vous. Mais les femmes voulaient que les hommes soient considérés comme des agresseurs et ne soient pas défaussés par l'alcool ou par les substances annexes. Qu'on ne dise pas, bah oui, c'est pas de sa faute, il a bu. Voilà. Donc on voulait le...
Même si c'est quand même de sa faute s'il a bu.
Ah voilà, on n'est pas responsable de sa maladie, on est responsable de son rétablissement. Donc c'était un sujet, et puis Monsieur Macron, Monsieur le Président nous a dit que tant qu'il serait là, on ne toucherait pas à l'alcool. On ne souhaite pas qu'on y touche, on souhaite qu'on accompagne le plus dignement possible tous ceux et celles qui vivent les conséquences au quotidien d'une consommation excessive et chronique d'alcool.
Justement, on a parlé de ces trois points, et parmi les nombreux objectifs de l'association, lesquels souhaiteriez-vous mettre en avant ce soir ? Parce qu'il y en a plus d'une dizaine énoncées sur votre site.
Mais la dixième, je vais vous la donner tout de suite, la dixième, hein, c'est « Revoyons l'humour hein. ». Y en a marre de se faire traiter de proches alcooliques, ça c'est anecdotique, mais ça fait partie de notre liste quand même.
L'humour qui banalise l'alcool et ridiculise les proches.
Ah bah complètement. Ah bah complètement, si déjà on arrive à travailler sur ce sujet-là, c'est voilà. Donc non, nous ce qu'on souhaite et ce qu'on on demande, c'est une campagne nationale de sensibilisation des conséquences de l'alcoolisme intrafamilial. C'est-à-dire qu'actuellement, on est battu, on est frappé, ou on est insulté de manière violente, on fait le 39-19, où on va porter plainte. Bon. Notre proche ou un proche a bu un soir. Il nous insulte, nous traite de pétain, c'est tout ce qu'on veut. C'est du domaine de l'ordinaire. C'est pas comme ça, on peut pas aller... Déjà, les commissariats sont blindés de plaintes multiples pour agression physique. Imaginez-vous d'aller porter plainte pour une insulte du quotidien parce que l'assiette n'est pas mise à la bonne place. Et pourtant, c'est le fil rouge qui fait qu'on s'installe dans une violence chronique et banale.
Et quotidienne.
Et quotidienne.
Le temps passe, c'est déjà le milieu de notre entretien, c'est donc l'heure de notre pause musicale. Je vous laisse apprécier Boris Vian avec son titre « Je bois », l'art de dénoncer avec un humour grinçant. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre entretien avec Béatrice Morisset, présidente de COPMA. A tout de suite.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Il faudrait en finir. Sacré Boris Vian. Vous venez d'écouter son titre « Je bois », sorti en 1956. Nous retrouvons Béatrice Morisset, présidente de l'association COPMA, collectif de proches de malades alcooliques, pour la deuxième partie de notre entretien. Béatrice Morisset, parmi les objectifs que nous avons évoqués juste avant la pause, il y en a un que j'ai lu sur votre site qui m'a interpellée plus que les autres. C'est la création d'une mention sur les bouteilles d'alcool qui serait « La consommation chronique d'alcool nuit gravement à l'entourage. deux mots nouveaux, chronique et entourage. Pourquoi est-ce important pour vous ?
Parce que ce serait déjà une reconnaissance de cette souffrance chronique qui est dit. Mais lorsque l'on sait actuellement qu'ils se sont battus au niveau national pour avoir ce petit pictogramme qui précise que la femme enceinte ne doit pas boire pendant sa grossesse, je crois que c'était des années de combat. Donc des années, hein, Michel Reynaud en faisait toutes les associations, étaient demandeuses, et ça bloquait au niveau des ministères. Donc on peut rêver, mais rêver ça aide à vivre, et ça aide à survivre aussi. Hein, vous savez que COPMA est pour le groupe qui participe, c'est un côté aussi thérapeutique. Et c'est-à-dire que les filles qui sont avec nous, parce que, évidemment, moi je ne suis là que parce que les autres sont là et parce qu'on est un groupe, en rien je ne serai là aujourd'hui, j'en aurai pas la force. Et c'est un groupe qui parle. Et voilà, et donc elles sont battantes. Et aidez-moi parce que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Bah, nous allons passer aux choses d'après, c'est-à-dire que maintenant que nous avons précisé les contours des objectifs de COPMA, parlons des actions que vous mettez en place. Elles sont, me semble-t-il, essentiellement dirigées vers les politiques, les institutions et les médias. Du plaidoyer, en somme, pour mettre en lumière ce problème ?
Tout à fait. Tout à fait. Alors on a commencé, on était en 2019, on était en collectif, on n'était pas en association, et je tiens à préciser que nous avons le soutien d'Addicted, association professeur Benyamina, mais surtout professeur Michel Reynaud, enfin pas surtout, c'est aussi Michel Reynaud que nous avons rencontré en 2019, nous étions un collectif à l'époque, et il nous a dit, moi je vous aide si vous passez en association. On le rencontre en juin, en août il nous rappelle, il nous dit voilà, vous êtes toujours partante, oui. Eh bien, je veux un courrier pour le Grenelle des violences.
Et qui a eu lieu en 2019.
On l'a fait en 2019. Il nous a dit, vous me faites le courrier, une lettre ouverte avec d'autres associations, et on vous soutient avec des professionnels. Et on est passé dans la presse écrite, la radio, sur différents médias. Et on a été entendus, et on a surtout fait le constat qu'on ne parlait pas d'alcool du tout. Alors que tous, le problème est connu, mais tabou. Voilà. Donc ça, c'était en 2019. Ensuite, nous avons la chance de rencontrer Madame Michèle Meunier, sénatrice, qui nous a vraiment, vraiment bien accueillis en nous remerciant de parler à visage découvert avec des noms et des visages et dire que on était, voilà, on vivait ça et on n'avait pas honte de le dire et que ça en concernait plus d'un. Et le lendemain de notre passage, elle a posé une question au gouvernement qui est effectivement restée sans réponse. Ensuite, on a eu la chance de rencontrer Madame Dufaux-Schubert, qui avait organisé un colloque à Saint-Nazaire sur le thème. Et puis, on l'a changé de poste un mois avant. Donc, le colloque n'a jamais eu lieu. Voilà. 2021, on s'est battu pour la création du site, parce que le professeur Michel Reynaud, envers qui nous avons une infinie reconnaissance, nous a permis financièrement de créer notre site. Et nous sommes sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, LinkedIn.
Vous avez même des partenaires. Vous avez des gens qui vous soutiennent.
Ah oui. Ah oui, alors on a notre site a deux mois. En visibilité, on a constaté qu'on a 25 à 30 passages par jour. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup. Enfin, ça nous semble beaucoup, nous qui sommes partis de rien. On est là. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. Et on attend, on a contacté Madame Rome sur Instagram. Effectivement, on n'a pas eu de réponse, mais peut-être que tout ça, ça germe. On a posé des petites graines. Hein. Donc, dans nos objectifs...
Madame Rome, on précise que c'est notre ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Tout à fait.
Les femmes
et
les hommes.
Tout à fait. Donc, vous me parliez tout à l'heure des objectifs. Donc, cette campagne nationale de sensibilisation, c'est un objectif qui nous tient vraiment très à cœur. Parce que si on passe devant un panneau qui nous dit « quelqu'un de chez vous boit, vous n'y êtes pour rien, mais faites-vous soigner, prenez soin de vous », ah ben, évidemment. Évidemment, chacun va avoir un autre
oui, ça
regard.
Ça va interpeller beaucoup de monde.
Mais ça va interpeller beaucoup de monde. Nous, ce qu'on demande, c'est la prise en charge gratuite de l'entourage, que le malade se soigne ou pas. C'est-à-dire que si le malade est toujours dans le déni, l'entourage...
Lui ne l'est pas.
Ah ben l'entourage... Et il a pu l'être. Il a pu l'être. À un moment donné, on se dit, il voit comme ça. Non, mais l'entourage n'est pas. Et l'entourage souffre et n'en parle à personne. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que les professionnels, éducation, justice, santé, soient formés au repérage et à l'accompagnement de l'entourage. Et que l'entourage soit pris en charge gratuitement au sein des structures spécialisées, entre autres dans les XAPA, et qu'ils soient aussi accompagnés dans des groupes de parole, mais qu'on sache où ils sont, ces groupes de parole. Il en existe, il y en a. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, parce qu'on vous donne des pistes pour aller dans les associations qui sont au plus près de chez vous.
Et puis COPMA participe aussi à différents événements, comme la journée Alcool Conso Science qui a eu en décembre 2022, l'Assise nationale de lutte contre les violences sexistes à Nantes, la rencontre avec la Société française d'alcoolologie,
un certain nombre
de choses. Et puis vous menez aussi des actions auprès du grand public, notamment le fameux défi de janvier qu'on connaît mieux sous le nom de Dry January.
Tout à fait. Alors on l'appelle le défi de janvier, on ne l'appelle plus le Dry January.
On
est français. On relaie l'information. Parce qu'effectivement, si un proche, un entourage, un malade prend conscience de l'impact de sa consommation sur la famille, effectivement, nous, on n'est que positif et on ne peut qu'en éprouver du bien-être et un réel bénéfice. C'est positif. Donc, effectivement, on relaie. On relaie et on en parle.
Alors, pour rebondir sur les actions, mettre de l'eau dans son vin, c'est une expression qui incite à la modération de nos propos, le fait de temporiser, de relativiser, mais cette expression dans sa forme n'est pas anodine. Sur votre site, d'ailleurs, on trouve des témoignages sous des formes variées, des blogs, des articles de presse, des films, des livres. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous recommanderiez à nos auditeurs et nos auditrices ? Je vous ai tendu cette perche avec mettre de l'eau dans son vin parce que c'est...
C'est le livre d'Olivier Leray.
D'Olivier Leray, Fayard.
Voilà, alors c'est le dernier qui est sorti et que Effectivement, c'est la vie d'une enfant. Il est très bien écrit parce qu'il est trash.
Enfin,
il est direct. Il est direct et elle voit bien, il y a un père vieillissant qu'elle essaye de remettre à sa place de père. Il est très bien, il se lit vite et c'est du pur vécu.
Il s'appelle De l'eau dans son vin.
De l'eau dans son vin,
Olivier Leray, aux éditions Fayard.
Voilà. Alors, il y a un film à voir qui est très bien. Alors, j'ai plus en tête, c'est La soif de vivre. C'est l'alcoolisme d'une femme. C'est la maladie alcoolique d'une femme qui boit le soir en silence en cuisinant. Et on voit que l'entourage est complètement perdu. Le père est perdu. Complètement, et sa femme et ses enfants. C'est le gamin qui va aider sa mère à prendre sa douche, qui essaie de la soigner. Il faut voir ce film au travers du regard de l'entourage. C'est extrêmement intéressant. Je peux vous... Autrement, vous avez Thierry Beccaro, vous avez plusieurs choses. Alors, il y a beaucoup de... Si c'est uniquement pour du témoignage, on a fait du témoignage d'émissions télévisées. Parce que raconter sa vie, en soi, personnellement, ça n'apporte pas grand-chose. Et surtout, il faut... Personnellement, mais si quelqu'un accepte de témoigner dans une émission, il le fait bien. Et donc, on a plusieurs émissions qui sont relayées sur le site.
Sur le site de COPMA. Et par ailleurs, un rapport parlementaire est sorti avant-hier sur les violences intrafamiliales. Aucune mention de l'alcool comme l'un des facteurs qui engendre ou aggrave ces violences.
Tout à fait. Alors, on a eu... Tout à fait. La société n'est pas prête, peut-être. Mais tout le monde le sait. Hein. Vous avez un article de Laurent Beg, addictologue, sociologue, qui dit que dans un féminicide sur deux, lors du passage à l'acte, il y a une prise d'alcool ou de substance. Laurent Beg, d'accord ? C'est un article du Monde qui date de janvier ou février, hein, je ne sais plus. On a le procureur Raphaël Ballan, qui a repris tous ses dossiers sur deux ans, et sur toutes les violences conjugales. Et dans 85% de violences conjugales, il y avait prise d'alcool et de substances. Et il conclut là-dessus, Raphaël Ballan, en disant qu'il s'agit d'une priorité, une cause nationale. C'est pas rien. Il faut la monter, il faut la soulever, cette chape de plomb. Il faut y aller. Donc, voilà.
Puis c'est une priorité de santé publique, quelque part. Sauf que notre ministre, que vous avez cité tout à l'heure, Isabelle Rome, qui est ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, est ministre déléguée de la Première ministre. Elle n'est pas vraiment sous le ministère de la Santé. Donc on n'est pas encore... Et de plus, elle est magistrate, donc j'ai l'impression qu'elle traite les choses un petit peu de manière juridique, légale. Et...
J'avoue, là-dessus, j'ai pas de retour. Vous savez, on est une petite association, on veut s'adresser aux médias, on veut s'adresser aux décideurs au travers des médias. Et tous les courriers qu'on a adressés lors de 2019, nous n'avons jamais eu de réponse. Jamais. Madame Michèle Meunier a posé une question au gouvernement, il n'y a pas eu de réponse.
Là, vous avez interpellé cette ministre, Isabelle Rome, sur Instagram.
Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse et les propos étaient tout à fait clairs. Voilà. Donc, vous savez, il y a eu une lettre de l'Observatoire de des violences, lettre du ministère. La première, qui date le numéro 16, mentionne l'alcool et les prises de substances en troisième situation. Le fait d'être une femme et le fait de récidiver sont les deux premières causes. La troisième, c'est l'alcool et les substances. D'accord.
La lettre numéro 10. C'est la première cause de violence.
Comment?
Être une femme, c'est la première cause
oui,
de violence.
Dans la... Oui, ça semble hallucinant. Hein. Dans la lettre numéro 17 ou la suivante, je ne sais pas si c'est 17 ou 18, je ne sais plus, on ne parle plus ni d'alcool, ni de. Il n'y a plus de troisième cause, il n'y a plus rien. On n'en parle plus. Et là, dans le rapport, on va créer des pôles de femmes, des pôles santé, des pôles ceci, des pôles cela. On ne remonte pas le maillon. Il faut remonter en amont. Il faut travailler sur ces violences banales du quotidien et permettre aux conjointes ou conjoints ou aux proches ou aux enfants de s'exprimer et de parler librement. Il faut leur donner la parole et les prendre en charge parce qu'ils sont en souffrance.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Béatrice Morisset d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir.
Alors moi je voudrais vous remercier pour la qualité de la préparation de votre interview, vraiment.
C'est un grand plaisir.
Non, je tenais à le dire parce que vous l'avez bien travaillé. Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
Je rappelle, Béatrice Morisset, que vous êtes présidente de l'association COPMA, collectif de proches de malades alcooliques. Merci de vous en faire le porte-parole. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez dans votre entourage une personne alcoolique et que cela vous inflige une souffrance, sachez que vous n'êtes pas seul, que COPMA est là pour faire connaître votre réalité et pour vous orienter vers des centres d'aide et de soins si vous ne les connaissez pas déjà. Que ce soit l'alcool, le sexe ou les jeux, toute dépendance crée les mêmes difficultés pour les proches. Sans mauvais jeu de mots, c'est l'entourage qui trinque. Ne restez pas isolés et sachez que, comme dans tout, c'est dans la modération que l'on apprécie les bonnes choses. Que la parcimonie soit votre amie.
Et merci encore à Béatrice Morisset d'avoir été présente sur Prune et merci à Perrine. Il est 18h31 dans Curiosité. Toi qui nous écoutes, sois attentif car tout de suite, c'est la pause cadeau avec Clotilde.
La pause cadeau.
Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des passes 4 jours pour le festival d'UpCamp qui aura lieu du 12 au 15 juillet. Festival dédié au mouvement Sound System en extérieur et qui fait vivre la culture reggae. Alors tente de gagner l'un d'eux en nous envoyant un message sur l'Insta de Prune. Et on retourne doucement pour la suite de l'émission avec le morceau The Truth de Roll and Record qui jouera au festival. C'est tout de suite sur Prune.
You are the only one who could rule your life. No, then I go back to the root. That one and the truth. You be from the truth. See the politician, them a ramp and abuse. Truth. You be from the truth. Conscious people win a final dispute. Away.
Bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir.
Et cette semaine, bah oui, c'est notre der des der de Quatrième Mur, alors j'espère que vous avez particulièrement savouré la carioca. Et comme le Festival de Cannes a été lancé la semaine dernière, je me suis dit que c'était l'occasion de remettre nous aussi nos propres prix. Alors je me suis fait un malin plaisir à donner des devoirs à mes camarades, j'espère qu'ils les ont bien faits, hein, pour honorer cette dernière de curiosité du mercredi. La règle était très simple, chacun devait me donner ses tops et ses flops des films de l'année. Alors pour le top, on se limitait à 3 films, internationaux ou français, de 2023 ou pas. Même règle pour les flops, sauf que j'en demandais qu'un au minimum. Et oui, j'en ai pas parlé dans ces chroniques, mon but c'était pas de vous dégoûter d'un film, mais plutôt de vous donner envie de découvrir la diversité du cinéma français. Alors, on est parti pour donner nos tops, on énonce les places du 3e au 1er, ou plus d'ailleurs s'il y en a plus. Ça me semble plus logique, qui veut commencer autour de cette table si vous en avez? Allez, vas-y.
Moi les tops, alors il n'y a pas d'ordre particulier, hein, mais il y a eu Tirailleurs, que vraiment j'ai trouvé hyper touchant. Et assez humble aussi dans la manière de faire. La famille Asada, film japonais sur un photographe et les relations liées au deuil aussi. Et puis l'histoire familiale, tout ça. C'était vraiment un chouette film. Très drôle aussi. Très touchant, mais très drôle. Et Retour à Séoul aussi, sur film franco-coréen, je crois. Sur la filiation, quand on a été adopté et ce genre de choses. Et magnifiquement interprété par l'actrice principale, dont je n'ai pas noté le nom. Ça c'était vraiment mes trois films préférés.
Que des films internationaux, quasiment.
Tirailleurs, c'est...
Oui, sauf quasiment, j'ai dit. Quasiment.
Bah, sur trois, quoi.
Sur trois. Ok, qui en a d'autres?
Allez, c'est parti, je me lance.
Oh là.
Donc là, c'est Perrine qui parle. Moi, de toute façon, j'ai pas de flop. Généralement, je vais voir des films qu'on m'a recommandés et dont je connais la vie des gens qui m'ont recommandé.
T'es jamais déçu?
Je suis rarement déçu. Je vais pas forcément hyper souvent non plus au cinéma.
Okay.
Donc là, je vais vous donner trois films dont un seul j'ai vu au cinéma qui s'appelle Asbestas.
Ah!
Que j'ai adoré.
Regard à Clotilde, on en a parlé juste
avant. J'ai adoré Asbestas. Donc, c'est un film, je crois qu'il est franco-espagnol. Hein. J'imagine qu'il est franco-espagnol avec Marina Foïs. Et c'est l'installation de néo-ruraux français qui s'installent au Pays Basque pour faire de la permaculture dans un endroit où c'est plutôt de la culture traditionnelle. Et puis, il y a plein de projets au niveau éolien. Donc, ça parle d'écologie, ça parle de tradition locale et tout ça. C'est assez dramatique, mais c'est vraiment hyper intéressant. Il y en a un qui s'appelle The Present, qui est un court-métrage que j'ai vu lors du Festival du film palestinien, qui est un court-métrage qui fait 20 minutes et qui montre le passage d'un checkpoint pour un Palestinien qui veut aller acheter un cadeau à sa femme. Et c'est hallucinant pour passer un checkpoint à l'aller et au retour avec sa fille, à quel point c'est compliqué. Donc je vous invite à regarder ça si on peut encore le trouver. Et puis le dernier, c'est Les Deux Alfred que j'ai regardé récemment.
C'est vrai,
ouais, il est vraiment que j'ai trouvé
bon,
super,
ouais,
qui est une belle satire de la société de consommation et hallucinant dans laquelle on vit, avec que des mots en anglais. Voilà, que j'ai trouvé bien satirique.
Bon, Et d'ailleurs, c'était avec Elena dont je parlais d'Asbestas.
Oui.
C'est une erreur de ma part, pardon.
C'est moi qui est une grande fan de Asbestas, ok. C'est pas grave. On passe à Chloé.
À mon tour, ouais. Moi, j'aurais mis « Je verrai toujours vos visages » en premier, que j'ai vraiment adoré, très touchant et un sujet intéressant que je ne connaissais pas forcément, la justice restaurative. Donc voilà. Après, en deuxième position, je mettrais peut-être « Everything Everywhere All at Once », que j'ai trouvé original et un peu loufoque, mais super bien réalisé et touchant aussi avec la relation mère-fille. Et après, j'étais un peu partagée, je ne sais pas trop quoi mettre. J'ai mis « Babylone », que j'ai quand même bien aimé, de Damien Chazelle. Ouais, voilà. Et j'ai pas forcément de grosses déceptions. J'avais mis Avatar, histoire de jouer le jeu, de mettre quand même quelque chose que j'avais peut-être un peu moins aimé, parce que j'ai trouvé quand même le scénario un peu bateau. Ouais, un peu basique. Après, ça reste un beau film visuellement, ça j'ai vraiment aimé. Mais ouais, le scénario, j'ai pas trouvé ça non plus...
Je dois avouer, je l'ai même pas vu.
Ok, ouais.
J'étais même pas allée le voir. Franchement, j'avais deviné le pitch avant.
Ouais,
même de le voir, le truc, j'ai fait bon. Elena.
Ouais, alors comme à chaque fois qu'on me demande mes meilleurs films, j'ai toujours un blanc, mais non, ouais, les films que je retiens, peut-être en top 3, enfin le troisième, La Nuit du 12 quand même, parce que voilà, c'est quand même un sujet qui touche forcément, et je trouve qu'il est très bien amené, notamment par la fin, que je ne vais pas dévoiler, mais voilà, donc ouais, La Nuit du 12... j'avais pas vu et ça faisait très longtemps qu'il fallait que je le regarde. Bon, c'est un classique pourtant, mais Goodbye Lenin, je l'avais pas vu et il est passé l'autre jour sur Arte et du coup je me le suis regardé et j'aime beaucoup en plus cette période de l'histoire et j'aime beaucoup l'Allemagne, donc du coup voilà.
Merci Arte.
Et merci Arte, mais oui, mais ouais. Tellement en fait. Il y a tellement de bons films qui sortent sur Arte. Donc voilà.
D'ailleurs, on passe un petit message aux auditeurs et auditrices parce que Arte, sachez que vous allez sur la plateforme gratuitement. Ouais. Vous avez plein de films hyper cultes, que ce soit franco-allemand ou juste français ou allemand, et c'est vraiment génial comme plateforme.
Ah oui, ouais.
N'hésitez pas.
Et du coup, mon premier choix top one, c'est Asbestas, vraiment.
Ah
ouais. C'est pour ça que j'ai fait
excellent.
Ouais, non, je suis vraiment, je l'ai regardé au cinéma et je suis sortie, mais scotchée, quoi. Donc, je trouve que le scénario, il est incroyable, que l'histoire, elle est intéressante aussi, que, enfin, avec ce couple-là, du coup, qui vient s'installer en Galice. Et je trouve que justement, on aurait peur que ça tombe dans, un peu dans le manichéen, enfin, un peu que ce soit manichéen, et pas du tout en fait. Il y a aussi l'histoire des paysans qui sont là depuis des années et qui vivent dans des conditions assez misérables et tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien amené. L'interprétation est incroyable. J'aime beaucoup Denis Ménochet.
Voilà, je ne retrouve pas son nom.
Ah ouais, il est vraiment cet acteur, je trouve dingue dans tous ses films. Marina Foïs aussi, ouais, je crois que c'est un de ses meilleurs rôles pour moi. Et puis bah, les deux acteurs aussi espagnols, Diego Anido et Luis Zaira, qui sont vraiment incroyables et qui nous glacent le sang. Donc voilà, puis des très belles images aussi. Donc là, c'est vraiment mon top, on reste scotché jusqu'au bout. Et voilà, donc je vous le recommande vivement. Et après, dans mes flops, j'ai pas vraiment de flops. J'ai pas été très fan de Novembre. Je pense que je m'attendais à avoir donc Novembre de... j'ai oublié le réalisateur qui l'a... Cédric Jiménez, voilà, qui a fait Bac Nord. J'ai pas vu Bac Nord, mais du coup, Novembre, je suis pas très film d'action. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus d'émotion et tout ça, notamment sur les attentats. Et donc, c'était un peu, pour moi, un film de gros bras et je suis pas très très fan. Mais voilà, c'est un peu mon... On flop, on va dire.
Bon, vous m'avez convaincu pour Asbestas, par contre, là, ça y est.
Ah, mais oui.
Et Clotilde, dis-nous quand même qui a fait sa petite liste.
Oula, alors, on va faire très rapidement parce que l'heure tourne. Oula. Mais alors, j'ai bien aimé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est quand même un peu un classique. Et j'ai bien aimé, là, j'ai regardé avant-hier Les Huit Montagnes, Les Hautes Montagnes, un truc de genre, voilà. Et c'est très contemplatif, c'est très bien. Et j'ai pas aimé Les Animaux Fantastiques 3, voilà.
Alors je suis d'accord pour Les Animaux Fantastiques, je l'ai vu. Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé nettement moins bien.
Fan service de merde.
Ouais. Je suis d'accord. Bon, perso, mon top, ça va être assez prévisible parce que si vous avez écouté les chroniques, voilà. En troisième place, j'ai mis Sage-Homme parce que quand même, même si c'est... on en a parlé la semaine dernière avec la gynécologue qui était là, je l'ai trouvé vraiment bien et c'est un film qui est quand même hyper feel-good et je pense qu'on en a besoin de temps en temps et ça fait un bon film français qui est un peu pour tout le monde, qui est dû quand même... sur certains sujets, même si ce n'est pas entièrement la vérité.
Ce n'est pas un documentaire.
Et mais ce n'est pas un documentaire en même temps. En deuxième, moi, c'est Les Trois Mousquetaires. Voilà, j'aime François Civil, donc je suis désolée, mais j'ai adoré, je suis grave convaincue. En vrai, j'ai hâte de voir le prochain. Et en premier, c'est Je verrai toujours vos visages comme Chloé, parce que, bah, pareil, c'est un sujet que je ne connaissais pas très bien et c'est un sujet qui m'a vraiment touchée. Et voilà, c'est un film qui m'a retournée. J'ai quand même des mentions spéciales à faire pour L'Innocent de Louis Garrel, que j'avais vu aussi, qui est très très bon, surtout pour Noémie Merlant, qui est juste absolument géniale dans son rôle. Le deuxième, c'est Suzume, du célèbre réalisateur Makoto Shinkai, qui est juste incroyable. Bon, et puis bah, mon flop, je suis désolée de le dire pour Chloé, c'est Babylone. Moi, je suis désolée, mais c'était horrible. J'ai passé 3 heures, j'ai cru que j'allais me tirer une balle. Enfin, j'ai failli sortir de la salle. Voilà, et j'ai vraiment pas vu l'intérêt de certaines scènes. J'aimerais carrément que le passage entier avec Tobey Maguire s'efface de ma mémoire. Alors, merci à tous ceux qui m'ont écouté cette chronique. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de voir plus de cinéma français, d'être curieux, même si sur le papier, le synopsis vous plaît pas, et même si le film est super long. J'aimerais juste terminer par dire que le cinéma fait partie de la richesse culturelle française, que peu importe ce que vous aimez et regardez, vous avez le droit parce qu'il faut tout pour faire un monde. Moi aussi, je regarde des films considérés comme des navets par certains, mais chacun ses goûts. Alors, comme vous le dit le nom de cette chronique, restez curieux de tout et regardez ce que vous voulez. Hasta la vista, baby.
Et merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir partagé votre palmarès. Et sans plus attendre, car on est un peu en retard, on passe tout de suite à l'entretien avec Chloé et Cassandre Thiénot de la Maison Fumetti et Loïc Sécheresse, auteur et illustrateur de bande dessinée. C'est tout de suite sur Prune.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Bonsoir Cassandre Thiénot et Loïc Sécheresse.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc Cassandre, vous faites partie de la Maison Fumetti, un lieu situé au sein de la bibliothèque de la Manufacture et qui vise à favoriser la diffusion du 9e art, la bande dessinée, auprès du grand public et à soutenir le travail des artistes nantais. Et pour cela, vous organisez notamment chaque année le festival Fumetti qui est décrit sur votre site comme un festival populaire et convivial, une kermesse graphique faisant la part belle aux créateurs passionnés. Cette année, les animations s'étalent sur une dizaine de jours, du 1er au 11 juin, et sont dispersées un peu partout dans la ville, du lieu unique au musée d'art, en passant par le cinématographe ou la manufacture des tabacs. Le thème de cette édition, c'est l'amour, et au programme, pour explorer cette thématique, 24 auteurs et autrices seront à découvrir lors de tables rondes, d'expositions sonores et érotiques, de performances dessinées charnelles, de concerts pour se défouler, de lectures bruitées ou encore d'ateliers. Parmi ces artistes, on retrouve Loïc Sécheresse, diplômé des Beaux-Arts d'Orléans. Il s'adonne tout autant au dessin de presse qu'à la narration pour la bande dessinée. Il a signé plusieurs albums, dont Heavy Metal ou Satanisme et Éco-responsabilité, et a participé à Portrait d'une France en marche portant sur le mouvement des Gilets jaunes. Loïc, on pourra vous retrouver durant le festival à l'occasion du mix dessiné Sextober avec DJ Kamal, de la table ronde Oscillation du cœur d'un ou d'une autrice de l'exposition Bruit d'amour et pour une séance de dédicace lors du salon d'édition. Je vous propose de commencer par présenter plus en détail le thème de cette édition, l'amour. À travers plusieurs artistes et animations, vous souhaitez questionner plusieurs facettes de l'amour, la sexualité, le désir, les conflits, le culte de l'amour, sa définition, mais aussi sa représentation du coup dans la BD. Pourquoi avoir voulu questionner l'amour ?
Waouh, c'est une vaste question l'amour, donc je n'aurai pas de réponse directe. Mais on a choisi ce thème, notamment en réaction à l'affaire Vivès au moment du FIBD. On a eu envie de parler d'amour et pas d'inceste, ni de pédocriminalité. On a eu envie d'avoir des invités qui s'interrogent sur la représentation du corps et notamment contre la culture du viol, le male gaze et tout, enfin, qui s'interrogent sur leur rapport aux histoires d'amour et au dessin et à la sexualité. Voilà.
Dans la description du festival, vous écrivez, je cite, « Nous avons choisi d'inviter des auteurs et autrices qui s'affranchissent d'un imaginaire parfois poussiéreux et qui partagent avec les lecteurs leurs expériences, leurs fantasmes, leurs joies et leurs ratés d'une manière personnelle, contemporaine, voire encore méconnue. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, s'affranchir d'un imaginaire parfois poussiéreux ?»
C'est ce que je te disais un peu sur tout ce qui est male gaze et culture du viol. Donc, c'est de sortir d'histoires d'amour assez... enfin, assez classique, et enfin, on en parlait avec Loïc aujourd'hui, mais dans le glamour et de l'hétéronormativité aussi. Donc de parler d'histoires d'amour qui sont des histoires de complicité, donc plus aussi dans l'amitié, dans l'adelphité, et aussi à plusieurs, ou un amour envers soi-même aussi, c'est important et intéressant. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces auteurs, autrices du coup du festival, en précisant quel regard ou histoire particulière ils livrent sur l'amour ?
Alors je pense qu'ils nous le dévoileront au moment du festival et on va garder nos petits secrets, mais déjà je peux un petit peu t'en parler. Enfin, tu as vu l'affiche avec les escargots amoureux, ouais, qui s'embrassent. Donc on avait envie de sortir vraiment de questionner cette représentation avec cette image subliminale où on voit à peu près ce qu'on veut, mais ce sont des escargots. Et sinon, par exemple, on a Julia Louisa qui est à Nantes avec son exposition Fight Love volume 2 à la cartouche, qui va interroger le culte de l'amour contemporain avec des installations, des peintures. Donc c'est vraiment l'amour en papier mâché. Donc ça va être tous les déboires amoureux. Ça va être très intéressant. Le vernissage est le 2. Je ne sais pas si je dois placer un peu des dates. Voilà, bon. Dans les artistes invités aussi, on a... Célia Portet-Messidor qui a fait un fanzine spécialement pour le festival sur le polyamour où elle récolte différents entretiens et des histoires, des aventures. Et il y en a tellement, tu l'as dit, il y en a 24. Donc du coup, ça va être vraiment ça va être plein d'aventures, plein d'histoires de désamour aussi, de narration sur le désir, de représentation. Et je peux un peu te lancer des dates comme ça, parce que c'est ce sont des rendez-vous, donc ça marche un peu comme ça. Et la soirée d'ouverture, c'est au lieu unique avec Cidre Action. Donc on fait une soirée avec un drag show dessiné. Donc tu as tout l'armée d'artistes drag qui vient prendre la pause pour la lutte contre le VIH. Ça sera suivi d'un mix d'Aurel. Donc là, ça va être vraiment chouette. Et on fait un appel aux dons par rapport à cette soirée. Voilà. Je sais plus. Je pourrais te citer
tout le
programme.
On pourra de toute façon revenir sur le programme au fur et à mesure. Bah, parlons un petit peu du coup des animations auxquelles vous participez, Loïc. Pouvez-vous nous présenter déjà le concept de votre série Sextober que vous présenterez lors de la soirée d'ouverture, il me semble, avec en accompagnement un mix techno de DJ Kamal.
Le Sextober, c'est une série de dessins que j'ai fait il y a 2 ans à l'occasion d'un défi dessiné qui s'appelle le Inktober. Il s'agit de réaliser un dessin à l'encre, sans préparation, chaque jour, pendant tout un mois, au mois d'octobre. Et comme j'ai déjà fait plusieurs années, en suivant des thèmes officiels ou des thèmes plus personnels, depuis quelques années, je change le thème, je choisis une orientation particulière. J'avais notamment fait un Deathtober l'année d'avant, donc où j'avais dessiné des gens morts, des gens décédés, des gens que j'ai connus, des gens, des personnalités publiques que j'appréciais, mais aussi des gens de parfaits inconnus que des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux m'ont proposé de dessiner à partir de photos, à partir de témoignages. Et voilà, donc la série Sextober, qui est une déformation d'Inktober, avec évidemment le thème de la sexualité, c'était une période où j'étais un petit peu dépassé par certains événements perso. Et j'avais une bande dessinée avancée, j'avais absolument pas le temps de m'y consacrer au quotidien. Et le seul moyen que j'ai trouvé à ce moment-là pour me raccrocher au dessin au quotidien, ça a été de suivre cette série, de faire cette série de dessins et d'y questionner la représentation de la sexualité. J'avais notamment une BD en préparation dans laquelle il y avait des scènes de sexualité explicite, mais justement une bande dessinée qui met en scène qui s'attache à déconstruire toute la dimension glamour des gens riches et beaux. Et donc cette série est venue en contrepoint en fait de cette représentation qui passe par des rapports de domination. Et j'ai essayé, et voilà, en plus j'avais pas encore, mais je suis maintenant un homme blanc de 50 ans, j'ai essayé de questionner justement les représentations que sont celles que les gens de ma génération peuvent avoir, avec quoi on était formé, construit, notamment à la bande dessinée, la représentation de la sexualité dans la bande dessinée, la représentation des femmes dans la sexualité qui est encore extrêmement codifiée, normée, on a beaucoup beaucoup de mal à en sortir, et j'ai donc fait des dessins de scènes de sexe hétérosexuel pour la plupart du temps. Parfois, le genre est un petit peu confus. Voilà.
Ok. Le défi est aussi dans la technique, puisque vous ne vous autorisez aucune documentation, aucun modèle pour imaginer et dessiner ces planches. À quel point c'est difficile de s'en priver? Est-ce que vous avez toujours réussi à faire exactement ce que vous aviez en tête?
Alors, moi, j'aime bien dessiner le corps, déjà. Donc, je pense que j'ai accumulé une doc. Comment dire, je suis nul en architecture, par exemple, mais le corps, ça va. J'arrive à faire sans documentation. Et justement, le fait de ne pas recourir à la photographie, à la vidéo, au cinéma, etc., c'était l'objet du défi, quoi, en fait. Qu'est-ce qui nous reste une fois qu'on se débarrasse de nos codes culturels? Avec quoi on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, bah, parfois, c'est peut-être un petit peu ennuyeux, mais on retrouve des pistes, on retrouve des choses à laquelle se raccrocher. Et on arrive à faire des propositions qui ne s'éloignent pas forcément des codes culturels généraux, mais qui sont peut-être un petit peu plus sincères.
Avec les autrices Célia Porte-Messidor et Maybelline Skirostoff, vous réalisez une table ronde nommée Oscillation du cœur d'une auteure-autrice. Est-ce que vous pouvez juste rapidement nous préciser le sujet de cette discussion?
Je vais peut-être laisser Cassandre le faire, parce que je ne serai pas à la médiation, mais je ferai partie des gens
questionnés. Qui seront interrogés, d'accord.
Oui, dans cette table ronde, on a voulu questionner les histoires de désamour et les mécanismes du désamour, notamment dans l'édition. On n'est pas psychologue, on n'est pas courrier des cœurs, donc on va vraiment éviter d'étaler notre intimité. On se retrouvera au bar après pour en parler, je pense. Mais du coup, c'est une table ronde qui parle de nos rapports dans le monde de l'édition, un peu comme des rapports amoureux, avec tout ce qui est de l'ordre du raté, et puis de peut-être aussi la reconquête personnelle vis-à-vis d'une pratique, par exemple, ou d'une pratique plus libre du dessin, du fanzine, de la publication, l'auto-édition, tout ça.
Super, bah, je vous remercie, ça va déjà être la fin. Si vous avez peut-être un mot à dire sur un événement qu'on n'a pas pu aborder rapidement.
Il y a tellement d'événements, vraiment,
ouais, c'est regardez assez chargé comme programme.
C'est ça. Regardez le programme, le cœur, c'est du 9 au 11 à la manufacture des tabacs. Mais entre-temps, vous avez, hyposensible au musée d'art où les statues hyper réalistes vont subir un relooking express. Donc ça va être assez drôle à voir aussi, c'est le 8. Vous avez Rom-Com au cinématographe avec le film Playlist de Nina Antico. Et voilà, que manifestement, c'est un top.
Parce que j'ai failli l'évoquer, Nina Antico, quand vous parliez de sexualité des femmes. Ouais. Elle l'évoque hyper bien dans ses BD aussi.
Bah ouais, tous nos invités, on est trop contents. Ils sont venus en nombre, donc on est vraiment ravis. Et puis, suivez le programme parce qu'il y aura de quoi faire, je pense.
Bah, je vous remercie à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci encore à vous, toute l'équipe. Merci à nos invités Cassandre Thiénot et Loïc Sécheresse. C'est la fin de Curiosité et c'est aussi la der des der de ce mercredi. Alors un grand merci à toute l'équipe. On salue Perrine et Chloé, nos deux intervieweuses. Suvan, Morgane et Elena qui sont nos chroniqueurs et chroniqueuses de cette année. Bien évidemment Seb qui est toujours caché derrière les machines et qui a assuré la réelle de ce mercredi. Les nombreux animateurs et animatrices qui se sont succédés avec Julie, Antoine et Emmanuel pour citer les principaux. Merci à Constance qui tient les rênes de la rédac. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur prune.net. La semaine prochaine, retrouvez l'émission spéciale aux frontières du genre enregistrée à la plaisir bistro queer. Restez sur Prune tout de suite, c'est le labo des savoirs. Merci Clotilde, tu peux rendre l'antenne.
Salut.
Salut.
Merci.
Curiosité du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.